5 semaines de guerre en Iran, des milliers de Marines déployés, l'escalade suit la même mécanique qui s'est produite au Vietnam, mais peut-on pour autant en faire le parallèle ?
Dans ce grand bouleversement mondial, on l'entend moins, il s'affiche à l'opposé de la fureur de Donald Trump et cherche à incarner une forme de stabilité dans ce chaos ambiant. Et si Xi Jinping ressortait grand gagnant du conflit en Iran ?
C'est l'ordre du monde.
C'est parti.
Bonjour à tous, salut Margot.
Salut Mathieu.
Bienvenue dans ce podcast L'Ordre du Monde. Je vous présente Margot Faudéré, qui a l'amabilité de venir remplacer notre Annalisa Capellini internationale, qui a pris quelques jours de congé ô combien mérité. Merci à toi et bienvenue Margot.
Merci à toi.
Margot Faudéré, qui est une des incarnations fortes de la matinale de Good Morning Business.
Tous les matins, le radar de l'info.
Exactement, voilà. Donc tu es ici chez toi, Margot. Très heureux que tu m'accompagnes pendant ce podcast.
Bah écoute, ravi d'être là. Merci beaucoup de m'avoir proposé de le faire avec toi. Pour faire un espèce de premier bilan, on est quasiment à 5 semaines déjà de conflit au Moyen-Orient. Bon, il faut dire que Donald Trump n'arrête pas de souffler le chaud et le froid. Parfois, on s'y perd même un petit peu dans ses déclarations. Quelle va être la durée du conflit, l'intensité ? Il y a certaines choses qui ne sont pas encore très claires. En revanche, il y a bien une chose qui est certaine, c'est que ce conflit, on le voit, il est ultra impopulaire aux États-Unis. Donald Trump s'en rend bien compte quand même. Et d'ailleurs, cette semaine, il a voulu s'adresser directement aux Américains.
Son discours à la nation.
Ouais. Exactement. L'objectif, c'était un peu d'essayer de les rassurer, de leur dire attention, ce conflit Moyen-Orient, c'est pas la Première Guerre mondiale, c'est pas la guerre en Corée, c'est pas la guerre au Vietnam. Ouais. Et pourtant, on entend quand même des experts qui font le parallèle entre l'Iran et le Vietnam. Alors, selon toi, pourquoi et est-ce qu'on peut faire ce parallèle ?
C'est en fait, il y a un chercheur dont j'ai parlé plusieurs fois dans ce podcast et dans cette espèce de brouillard énorme qu'on est en train de traverser tous ensemble. Il faut trouver aussi les bonnes personnes, celles qu'on qu'on estime crédible, à qui on peut faire confiance. Moi, il y a ce chercheur, Robert Pape, qui est chercheur à l'Université de Chicago et qui s'est fait une spécialité mondiale sur toutes les logiques d'escalade dans les conflits. Donc, c'est très intéressant de l'écouter. Et lui, Robert Pape, il fait clairement le parallèle avec le Vietnam. Le passage de la guerre aérienne à la guerre terrestre au Vietnam, elle s'est faite en environ 6 semaines. Et pour lui, pour Robert Pape, les prochains jours, ils vont être décisifs, déterminants, pour voir justement si les États-Unis vont franchir ce même seuil qu'au Vietnam. C'était en mars 1965.
Oui, c'est vrai qu'on approche de la date fatidique des semaines. C'est intéressant parce que quand on regarde le schéma un petit peu de l'intervention américaine qui a été déployée dans les années 50 au Vietnam, c'est vrai qu'il y avait ces trois phases. D'abord, l'intervention aérienne, après le déploiement de quelques forces au sol, et puis après, ça s'est transformé finalement une mission qui a duré des mois, des semaines. Donc même si Trump affirme que les objectifs en Iran sont quasiment atteints, on peut quand même un petit peu en douter.
Oui, et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de disséquer cette logique d'escalade qu'il y a eu au Vietnam en 65. Qu'est-ce qui s'est passé ? En amont, déjà, on peut peut-être faire un parallèle sur les opérations clandestines. Pourquoi ? Parce que début 64, il y avait 16 000 conseillers américains qui étaient déjà intégrés de manière officieuse aux forces sud-vietnamiennes. En 2025, on avait le Mossad et dans une moindre mesure le renseignement américain qui était très actif aussi dans la société iranienne pour tenter, on l'a vu, d'encourager un changement de régime. Ensuite, tu as eu le début de l'escalade au Vietnam. On est le 2 mars 1965, c'est le lancement de l'opération Rolling Thunder. Donc là, c'est du carpet bombing, opération campagne aérienne de bombardement intensif et réplique immédiate des Vietcong. Quelques jours plus tard, on est le 8 mars 65, à quoi on assiste ? On assiste au déploiement de 3500 Marines qui débarquent là-bas au Vietnam. Pour faire quoi ? Pour défendre les bases aériennes. À l'époque, Lyndon Johnson, le président américain, dit que c'est purement défensif. Or, qu'est-ce qu'on va voir après au Vietnam ? Ça va être 4 mois après le lancement de ce carpet bombing. En juillet 65, Lyndon Johnson qui annonce un déploiement majeur des troupes. Écoute-le.
J'ai donné l'ordre d'envoyer au Vietnam la division aéroportée mobile ainsi que d'autres forces, ce qui fera passer notre effectif de combat de 75 000 à 125 000 hommes presque immédiatement. D'autres renforts seront nécessaires plus tard, ils seront dépêchés en fonction des besoins.
Tu vois, et je trouve ça super intéressant. Alors, et c'est incroyable. Alors, après, il faut toujours faire très attention aux parallèles, etc.
Mais, comparaison n'est pas raison.
Mais la même, exactement. Mais tu vois, la même semaine où on voit ce discours à la nation de Trump qui essaye de rassurer, comme tu le disais, des Américains tous encore.
Traumatisés par le Vietnam.
Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le Vietnam. Voilà, en fait, en juillet 65, ça ne se passait pas comme prévu. Et on a quand même un président américain qui était dans une logique de campagne aérienne et de discours défensif et qui va dire bah non, en fait, je passe de 75 000 à 125 000 hommes. Maintenant, revenons en Iran. Le 28 février 2026, donc, tu as le lancement de l'opération aérienne de Washington et de Tel Aviv avec des répliques immédiates sur Israël et sur les bases américaines du Golfe. Et qu'est-ce qu'on a vu là ces derniers temps? On a vu en seulement 4 semaines, comme au Vietnam, des milliers de Marines déployés ou en cours de déploiement. Et en fait, pour ce chercheur de l'Université de Chicago, pour Robert Pape, on sera clairement fixé dans les prochains jours, sachant que pour lui, jusqu'à aujourd'hui, au bout de 5 à 6 semaines, la guerre en Iran suit exactement le même mécanisme d'escalade d'un conflit qui, en fait, est pour lui toujours le même. C'est quoi ce mécanisme d'escalade? C'est, en un, une puissance aérienne qui crée des positions avancées. En deux, ces positions avancées qui deviennent des cibles. En trois, ces cibles qui nécessitent une protection. Et enfin, ces protections qui nécessitent quoi? Qui nécessitent une force terrestre. Donc, tu vois, il a vraiment théoriser cette logique qui est applicable quasiment à tous les conflits où on constate une escalade. Et c'est ce qu'il y a en ce moment en Iran. Ouais, donc sans présager de la suite, mais...
Voilà, ça va être intéressant de voir, effectivement, à cette fameuse date des 6 semaines, si le conflit bascule dans ce même schéma. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les États-Unis décidaient d'intensifier le combat et d'accélérer l'escalade, là, on basculerait quand même dans quelque chose d'une ampleur totalement inédite et différente en tout cas de ce qui se passe aujourd'hui, avec des moyens mobilisés qui seraient vraiment beaucoup plus spectaculaires, j'imagine.
Oui, oui, avec une déflagration absolument énorme, hein, parce que même si Donald Trump dit désormais que l'ouverture d'Hormuz n'est pas son problème, en réalité, évidemment que si, c'est son problème. Hormuz, et on en a déjà parlé dans ce podcast, il fait partie de ces grands, ce qu'on appelle choke points, ces nœuds stratégiques maritimes mondiaux qui peuvent provoquer un choc pétrolier durable. Et tu as vu cette semaine, on a entendu notamment le patron de l'Agence internationale de l'énergie qui nous a dit que le choc actuel est encore plus violent que les deux derniers chocs pétroliers des années 70, plus le choc lié à l'invasion russe en Ukraine de 2022, que ces trois chocs réunis. Donc là, on est sur quelque chose de massif. Ce qui est intéressant, je regarde ce que disent des chercheurs costauds en ce moment. Tu as le chercheur au think tank Atlantic Council, Joseph Webster, qui lui explique ce que contrôler Hormuz impliquerait pour les forces américaines. Ce qui peut nous permettre de comprendre pourquoi Donald Trump réfléchit à deux fois avant d'y aller. Il faudrait, selon lui, contrôler tout le littoral iranien ainsi qu'une grande partie de l'intérieur de l'Iran. Et ça, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait engager plusieurs centaines de milliers d'hommes pendant au moins 5 ans.
Beaucoup, parce qu'il faut le rappeler, le détroit d'Hormuz, il est bordé au sud par les Émirats Arabes Unis et par Oman, et au nord par les côtes iraniennes. Et les côtes iraniennes, on parle de plusieurs milliers de kilomètres. C'est vraiment, en termes de géographie, l'Iran, il y a quelque chose de massif, beaucoup plus massif que d'autres terrains où ont pu aller les États-Unis, notamment l'Irak. En ce sens, l'Iran n'est pas l'Irak.
Tu as tout à fait raison de le dire. En fait, l'Iran, c'est pas l'Irak. Hein. L'Iran, c'est plus de 90 millions d'habitants contre 25 pour l'Irak. L'Irak, il a un petit littoral. Alors que tu prends les côtes du sud de l'Iran, on est sur 1700 km de côte. L'Irak, c'est un désert plat. Alors que l'Iran, on voit, c'est un pays vallonné qui a des chaînes de montagnes qui montent à plus de 4000 mètres, les chaînes du Zagros ou de l'Alborz. Sur le plan topographique, l'Iran, en fait, c'est une véritable forteresse naturelle, ce qui fait dire notre chercheur de l'Atlantic Council que c'est un paradis pour les défenseurs. La topographie iranienne. Donc en fait, un conflit terrestre en Iran, ça nécessiterait, ça il faut bien l'avoir en tête, et il le sait Donald Trump, ça nécessiterait d'enrôler bien plus d'hommes que lors de la guerre en Irak, sachant qu'au plus fort de cette guerre en Irak, il y avait 160 000 soldats américains qui étaient enrôlés. Donc pour ce chercheur de l'Atlantic Council, une telle campagne terrestre et sur la durée, elle coûterait probablement des milliers de vies américaine et coûterait des centaines, voire des milliers de milliards de dollars.
Oui, tu as raison de souligner ce point-là, parce que évidemment, la guerre, c'est aussi une question d'argent. Il faut le financer. en ce sens, l'horloge tourne un petit peu pour Donald Trump. Il y a un moment, il va falloir prendre des décisions parce que je crois qu'on est déjà à des montants engagés sur le conflit qui sont très très élevés.
Ah ouais, c'est monstrueux. Et en fait, on comprend aussi pourquoi Donald Trump est pressé. Mmh. Parce que pour l'instant, depuis en quelques semaines, c'est 30 milliards de dollars en quelques semaines qui ont été engagés côté américain. Rappelle-toi, il y a 10 jours, Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, est allé en urgence demander une rallonge budgétaire au Congrès de 200 milliards de dollars, sachant que les États-Unis, c'est quand même la première puissance militaire au monde et qui a un budget de 1000 milliards
déjà
de dollars, qui à elle seule, en fait, plane au-dessus de tous les autres, hein, même si la Chine a un budget officieux qui se rapprocherait de celui des États-Unis. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu dis que l'horloge tourne pour Donald Trump, t'as raison. Il faut voir aussi qu'au niveau, sur le plan intérieur, là, on s'approche d'une hausse de 40% des prix de l'essence aux États-Unis.
Le gallon qui a dépassé la barre des 4 dollars cette semaine.
Notamment. C'est ça. Donc en fait, on a 32%, mais vu la dynamique, on va s'approcher des 40% de hausse des prix de l'essence. Aux États-Unis, il faut aussi savoir que Donald Trump peut lancer une guerre, c'est ce qu'il a fait, mais la loi de 1973 stipule qu'au-delà de 60 jours, il doit demander une autorisation au Congrès. Mmh. Au bout de 60 jours. Donc la guerre contre l'Iran, elle peut devenir super fragile juridiquement si dans quelques semaines, le Congrès qui solliciterait ne donne pas son feu vert. Et puis dernier point, tu as les échéances électorales avec mid-terms et une guerre qui, comme tu le rappelais tout à l'heure, est absolument impopulaire. Donc l'horloge tourne.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce point des élections qui approchent, ça se voit dans les chiffres. Le journal britannique The Economist a établi depuis plusieurs semaines un indice qui suit la cote de popularité de Donald Trump. Et donc ils viennent de mettre à jour cette cote. Elle n'a jamais été aussi basse depuis le début de son second mandat. Je crois qu'elle est passée sous la barre des 20%. Et The Economist le dit, c'est très probablement lié à la guerre en Iran. Donc de ce point de vue-là aussi, voilà. Pour autant, quand même, Donald Trump, ce qu'on voit, et encore, on l'a vu dans son adresse à la Nation tout récemment, c'est qu'il reste ultra virulent, il ne décolère pas, les mots qu'il emploie à l'égard de l'Iran sont très forts, il promet de ramener l'Iran à l'âge de pierre, il décolère pas non plus vis-à-vis de l'Europe, et on sait qu'il nous a traité d'inutiles, de peu aidants, on se rappelle des charges contre l'Espagne ou le Royaume-Uni. Globalement, si on prend la France, il a aussi dit qu'il se souviendra du manque d'aide de la France. Est-ce que ça, c'est le genre de formule qui est censé nous faire peur, selon toi ?
Ouais, en fait, il faut absolument dézoomer quand il dit ça. Et en fait, au-delà de cette menace, il faut regarder au-delà de la menace, la réalité, c'est qu'il y a un mouvement de retrait américain qui est déjà en cours depuis bien longtemps. Depuis que Donald Trump est retourné à la Maison-Blanche, il ne faut pas oublier que pour lui et son secrétaire à la guerre Pete Hegseth, le centre du monde... Et ça, il le sait depuis des années, il l'a en tête. Pour lui, le centre du monde, ce n'est plus l'Europe, c'est l'Indo-Pacifique. Et ce pivot vers l'Europe, vers l'Indo-Pacifique, il est engagé même depuis Obama. Tu sais, j'ai écouté un diplomate singapourien très influent qui s'appelle Kishore Mahbubani. Il est surnommé le Kissinger asiatique. Là-bas en Asie, il faisait une conférence devant des investisseurs indiens début septembre et il leur disait, allez-y, investissez pas vis-à-vis de l'Europe, investissez en Indo-Pacifique sans vous poser de questions. Les Européens, ils sont en vacances. Ils n'ont pas compris la bascule géostratégique qu'il y a en Indo-Pacifique. Mais la Maison-Blanche, eux, ils l'ont intégrée. Et donc, il y a un retrait, je te raconte ça, parce qu'il y a un retrait économique, géostratégique et aussi sécuritaire des États-Unis, de l'Europe. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est assez facile de dire, je m'en souviendrai, le retrait, il est déjà en cours.
Dans les faits, il est déjà là. Et d'ailleurs, je lisais cette semaine des chiffres qui montrent qu'aujourd'hui, plus de 40% des dépenses militaires de l'OTAN, en fait, elles sont assurées par le Canada et les Européens. Et je crois qu'en 2014, on était seulement à 27%. Donc en fait, on voit bien qu'en l'espace de 10 ans,
exactement.
En effet, les Européens ont repris un petit peu leur destin en main. Donc, tu parles de l'Indo-Pacifique, juste peut-être un petit mot pour ajouter. Il y a une autre région du monde aussi où les choses se passent de plus en plus, ou en tout cas les grandes puissances ont un intérêt, c'est aussi l'Amérique latine. Typiquement la Chine,
qui a tissé un maillage impressionnant,
notamment sur le plan économique. Sur le plan économique, pour revenir à l'Indo-Pacifique, il y a aussi une bascule qui s'est faite vers cette région-là du monde. Il n'y a pas simplement, c'est pas juste du point de vue diplomatique ou militaire.
Oui, en fait, cette bascule, elle s'est opérée en moins d'une génération. C'est absolument incroyable ce qui se passe en Indo-Pacifique. Là-bas, tout le monde se réarme à vitesse grand V. Tu as eu 40 accords de défense signés en 5 ans. C'est pour ça que pour l'OTAN, ça change la donne. Les États-Unis étaient jusqu'ici le garant ultime de la sécurité européenne. Mais les Américains se détournent donc vers cette région Indo-Pacifique.
Et en termes de poids dans le PIB mondial, on a une idée de ce que ça représente aujourd'hui l'Indo-Pacifique ?
Eh bien en fait, en 30 ans, c'est ça qui est fou, les courbes se croisent avec l'Europe. En 30 ans, tu as le poids de l'Union européenne dans le PIB mondial qui a fondu de moitié, alors que le poids de la Chine et de l'Inde, ils ont triplé ensemble. Aujourd'hui, la Chine, elle pèse autant que toute l'Union européenne, et donc tu as ces courbes qui sont en train de se croiser. Et donc, pourquoi je te raconte ça, on va le ramener à notre dossier iranien, c'est que quand Trump menace la France dans le dossier iranien, en fait, si jamais on dézoome, on se rend compte que ça fait longtemps que lui regarde ailleurs et qu'il a déjà oublié la France, il a même oublié l'Europe.
Tu penses à un pays ou des zones en particulier où Donald Trump pourrait avoir déjà...
Alors après ça, je ne veux pas non plus trop extrapoler, mais on peut se dire que, si, imagine un scénario science-fiction qui n'est peut-être pas si science-fiction que ça, mais imagine si Donald Trump se désengage par exemple de l'OTAN, bah derrière, il peut se dire qu'il a les mains libres pour fondre sur les endroits qui font partie de son hémisphère à lui, notamment le Groenland. Et on voit très bien la tension qu'il y a eu avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui a rattrapé les choses à la dernière minute en disant, vous inquiétez pas, on va sécuriser le Groenland dans votre hémisphère, mais on voit bien, et dans la rhétorique de l'administration Trump, ils ont toujours le Groenland dans leur viseur.
Vous avez tout à fait raison, parce que Pete Hegseth, qui est le chef du Pentagone américain, a développé récemment la théorie du Great North America. En fait, il estime que tous les États au nord de l'équateur, en fait, sont dans le périmètre d'influence des États-Unis. Et donc, évidemment, il y a le Groenland. On peut aussi penser au Canada.
L'Alberta.
Voilà. Quand Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, il a quand même dit que le Canada était le 51e État des États-Unis.
Très, très riche en pétrole, ouais.
Il y a peut-être un pays dont on parle un peu moins en ce moment dans ce conflit iranien. Et pourtant, on sait qu'il surveille de près la situation. C'est la Chine. La Chine qui pourtant qui a beaucoup d'intérêt au Moyen-Orient,
qui est en première ligne mais qu'on entend moins, et ça en fait c'est peut-être l'autre observation qui est très, il faut être super vigilant par rapport à ce que va dire et ce que fait la Chine. Regarde cette une de The Economist. Ils sont toujours très forts sur leur une. On voit
incroyable.
Donald Trump au premier plan qui est en flou, dans toute sa fureur, et en net, juste derrière, en second plan, tu as Xi Jinping qui sourit calmement. Et tu as ce titre, ne jamais stopper son ennemi quand il est en train de faire une erreur. En fait, cette photo de The Economist, elle nous dit tout. Déjà, sur le plan géopolitique, tu as Xi Jinping qui est en train de gagner la bataille de la crédibilité face à Donald Trump. Rappelle-toi, sur le plan climatique, c'était en septembre, à l'Assemblée Générale de l'ONU, tu avais cette séquence folle avec Donald Trump dans toute sa fureur sur l'estrade, à la tribune de l'ONU, qui disait que le réchauffement climatique c'était l'arnaque du siècle, etc. Le lendemain, une vidéo de Xi Jinping dans une posture d'empereur qui dit très calmement, je vais pour la première fois de l'histoire vous raconter mon plan de décarbonation avec un plan décennal. Et on sait que la Chine, quand elle dit un plan décennal, elle le respecte. Je te dis ça parce que on a dans ce dossier iranien depuis un mois une parole de Donald Trump qui semble être de plus en plus démonétisée, tellement qu'il fait des allers-retours et personne ne comprend où il va. Et ça s'oppose et il joue là-dessus. Et tu as à l'opposé la parole de Xi Jinping qui apparaît en contraste, peut-être un peu plus crédible, il économise ses mots, et quand il appelle cette semaine Xi Jinping à cesser immédiatement ce conflit, il économise tellement ses mots que là, tu as le monde entier qui l'écoute. Et en fait, comme le dit très bien le vice-directeur du Corriere della Sera, l'italien Federico Fubini dans la revue Le Grand Continent, l'aventurisme géopolitique de cette Maison Blanche a accéléré le changement de l'opinion publique mondiale vis-à-vis de la Chine. Et puis enfin, tu as peut-être une dernière photographie spectaculaire qui est la photo de Tianjin, qui était début septembre, qui avait fait le tour du monde, où tu vois Xi Jinping qui est entouré de tous les pays du sud global.
Narendra Modi, Vladimir Poutine.
Exactement, Narendra Modi, Vladimir Poutine. Il faut savoir qu'autour de lui, c'est lui le boss en fait de ce sud global en ce moment, même si c'est des puissances officieuses. Mais ensemble, ils pèsent la moitié de l'humanité, ils pèsent un quart du PIB mondial. Ces puissances, elles sont parmi les plus dynamiques de la planète. Elles partagent des intérêts communs. Et donc tu as ce bloc de Tianjin qui a aussi un appétit énergétique qui est colossal. Il faut savoir que le bloc de Tianjin, c'est plus de la moitié de la consommation de pétrole au monde. Et donc, il faut voir aussi à quel point ce conflit en Iran va accélérer ce processus
d'intégration
de ce bloc qui représente au niveau géopolitique un ordre alternatif à l'ordre occidental tel qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, quelque part, c'est ça qu'il faudra surveiller. Mais ce qui se passe en ce moment avec ce conflit en Iran et ce que provoque Donald Trump va peut-être accélérer un mouvement en cours avec Xi Jinping qui est sur une dynamique économique, qui est en train de devenir la première puissance et qui est sur le point d'ici 10-15 ans de devenir la première puissance économique au monde. Et peut-être, il y aura peut-être une hégémonie chinoise qui remplacera l'hégémonie américaine, et c'est peut-être ce mouvement qui est en cours ou qui s'accélère avec cette guerre en Iran.
Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, ce bloc aussi essaie d'accélérer une forme de dédollarisation de l'économie, si on revient au Moyen-Orient, notamment sur le détroit d'Ormuz. Certaines sources disent que l'Iran serait prêt à rouvrir le détroit à la condition que les navires désormais payent le droit de péage en yuan chinois.
Oui, et ça pareil, c'est ce qu'il va falloir surveiller là dans les jours et les semaines qui viennent, parce que si on imagine des pétro-yuan qui remplacent les pétro-dollars, ça participerait au renforcement d'une dédollarisation du monde. Est-ce qu'on n'assiste pas aussi à une bascule vers un monde qui s'affranchit de la monnaie, qui est la monnaie de la mondialisation, pour se tourner vers la Chine? On voit cette thèse qui émerge de plus en plus. Après, attention, attention à cette thèse, parce que la Chine, il faut toujours garder en tête que la Chine est un pays qui contrôle sa monnaie.
Bien sûr.
Et tant qu'un pays tant qu'un pays contrôle sa monnaie, elle ne pourra jamais être la monnaie de référence des banques centrales dans le monde. Donc à partir de là, pour moi, ça stoppe un peu le débat, même s'il y a quand même, on revient sur le bloc de Tianjin, si tous les pays du sud global disent ma monnaie c'est le yuan, on a quand même un choc monétaire et un signal géopolitique monétaire qui est incroyable.
Ouais.
On va finir comme chaque semaine ce podcast avec notre radar, ce qu'on surveille.
Qu'est-ce que toi tu vas surveiller dans les prochains jours alors ?
Alors moi, ce que je vais surveiller de près, c'est les élections en Hongrie. Les élections en Hongrie, c'est le 12 avril prochain. Pourquoi ? Ça va être passionnant à suivre parce que la Hongrie, c'est vraiment le baromètre du trumpisme en Europe. Il faut savoir que Viktor Orban, c'est le vétéran des chefs de gouvernement européens. C'est l'ami de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Il est depuis 16 ans au pouvoir. C'est aussi la tête de pont du trumpisme en Europe. Il a fait toute une campagne contre qui ? Contre Bruxelles et contre l'Ukraine. Voilà. Et en fait, on sait qu'à Washington, l'administration, la Maison-Blanche, elle rêve d'une Europe qui serait en fait une mosaïque de petite Hongrie. Mmh. C'est ça qui se joue. Et avec Donald Trump qui joue sur la montée des colères, des populismes en Europe. Mais là-dessus, il faut garder en tête un sondage Eurobazooka pour le Grand Continent qui était passionnant il y a 2 mois, où on voit comment l'aventurisme peut-être de Donald Trump vient fracturer les extrêmes droites en Europe. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les électorats de Vox, de l'AFD, du RN en France, de Fratelli en Italie sont désormais fracturés en 3 blocs, les pro-Trump, les anti-Trump et une large zone grise. Donc le 12 avril, on verra un peu quel est l'état de ce trumpisme en Europe. Toi, pour les prochains jours, c'est quoi ce que tu surveilles ?
Alors écoute, moi je vais surveiller cette mission spatiale américaine Artemis 2 qui vient de partir depuis la Floride et qui doit durer 10 jours. C'est la première mission lunaire avec des humains depuis les années 70, c'est la fameuse mission Apollo. Donc évidemment, c'est excitant d'un point de vue de l'exploration spatiale, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux géopolitiques, puisqu'on sait que la Chine et les États-Unis se livrent une concurrence acharnée aussi dans le secteur du spatial. D'ailleurs, les États-Unis, selon plusieurs experts, ont déjà pris un peu de retard, notamment du point de vue technologique. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir les délais des prochaines étapes de la mission Artemis ? Donc ça, c'est le point que je vais surveiller de mon côté.
Ah bah écoute, on va surveiller ça de près avec toi. En tout cas, un énorme merci Margot,
merci
c'était un plaisir de te retrouver dans ce podcast L'Ordre du Monde. L'Ordre du Monde, c'est chaque semaine, vous nous retrouvez bien sûr sur la chaîne YouTube de BFM Business. Abonnez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine sur nos podcasts audio et vidéo de BFM Business, sur toutes les plateformes. Et bien sûr, on attend vos commentaires. Et bien sûr, la semaine prochaine, je vous retrouve aux côtés d'Annalisa Cappellini pour son grand retour. Merci à toi Margot Federer. Allez, bonne semaine et à la semaine prochaine dans L'Ordre du Monde, bien sûr. Salut à tous.